XVIe siècle, se développe une activité intensive autour de la théorie de l'écriture narrative. Et cela est lié en partie aux modifications des habitudes, des modes de lecture, en fait. Et ces modes de lecture sont eux-mêmes conditionnés par un renouvellement des supports des textes. Voilà, l'imprimerie permet de circuler dans l'œuvre, et ça, c'est une nouveauté, en fait, pour le lecteur de la fin du XVe siècle et du XVIe siècle, qui devient de plus en plus familier des livres. Il peut mettre en rapport le début et la fin des œuvres. Il peut regarder un texte, son découpage en parties. Il peut suivre linéairement son avancée, mais aussi la stopper, la reprendre. Donc, finalement, la conduite du récit devient un enjeu d'écriture et donc aussi un enjeu de théorie. Vous voyez que c'est vraiment une question centrale à l'époque. Donc, les romanciers et les théoriciens, enfin les romanciers, les nouvellistes également, les conteurs, les fabulistes, prennent conscience du rôle de la cohérence interne de la narration. Ça, c'est, je crois, une nouveauté par rapport aux pratiques médiévales. Il y a la conscience que l'agencement de l'action dans le récit, donc, est un enjeu d'écriture, que l'axe horizontal de l'action est aussi important que l'axe vertical de la signification, pour parler un petit peu grossièrement, rapidement, hein, si vous voulez. Mais on va dire, en gros, que le récit médiéval tablait surtout sur la volonté de signifier et construisait tout dans le sens du décryptage, du symbolisme de l'aventure. Au XVIe siècle, la conduite de l'action, donc le récit en fait, l'organisation du récit, l'aventure du récit devient centrale. Alors je vous présente maintenant La Mythe Histoire Baragouine de Fanfreluche et Godichon. C'est comme ça que s'intitule le roman dans son intégralité. C'est un roman qui est anonyme. Sur la page de titre, alors je vous ai apporté ici une édition de 1574, qui est la deuxième édition que l'on conserve. On en conserve une édition de 1572. Donc voyez ici le titre, Mythe Histoire Baragouine de Fanfreluche et Godichon. Ensuite, sous-titre de « Trouver depuis naguère », c'est-à-dire il n'y a pas longtemps, d'une exemplaire écrite à la main. Donc, soi-disant, c'est le topos du manuscrit trouvé, hein, qui est vraiment déjà qui court énormément dans la littérature depuis le début du XVIe siècle. De la valeur de 10 atomes pour la récréation de tout bon fanfreluchiste. Pardon. Là, c'est une pique hein, qui est lancée à tous ceux qui veulent décrypter, qui attendent vraiment un récit à forte dimension symbolique. Le nom de l'auteur, ensuite, n'est pas donné. On a simplement le substantif auteur qui apparaît et dessous l'alphabet, avec une invitation absolument ironique à reconstituer par anagramme le nom de cet auteur. Bon, évidemment, chacun peut s'y risquer, chacun aura son résultat qui sera évidemment le bon, puisque personne ne peut vérifier. Voilà, donc on les vend à Lyon chez Jean Diepi, 1574. Il s'agit probablement d'une adresse fictive. Il s'agit très, très certainement en fait d'une publication parisienne chez un imprimeur inconnu. Ça, c'est vraiment des recherches toutes récentes qui l'ont montré. Voilà, donc je ne vais pas plus avant pour vous présenter la Mythe Histoire, parce qu'avant, je vais faire un plus large panorama, comme je l'ai annoncé. Je dirais simplement que cette Mythe Histoire, si vous voulez la situer un petit peu, on pense qu'elle a été écrite vers 1550, 1552, au regard des événements qui sont mentionnés dans les aventures des personnages. Il y a en fait des renvois historiques absolument clairs, hein, non cachés, et ça renvoie vraiment à des faits de la fin des années 40. Voilà. Toujours est-il qu'il y a quand même des difficultés dans la mesure où l'auteur présumé de cette Mythe Histoire, qui est Guillaume Desautels, et c'est ce que j'ai indiqué sur le programme des interventions d'aujourd'hui, Guillaume Desautels est un poète en fait, et il fait référence à une de ses compositions de 1555 dans un chapitre qui est métapoétique. Le personnage de Godichon monte en fait à l'occasion de visiter le Parnasse avec accompagné d'une muse, et c'est à cette occasion qu'il voit des poètes anciens et contemporains parler, et en particulier il y a certainement un personnage qui le représente. Alors, ce roman a longtemps été réputé pour être un mauvais pastiche rabelaisien. Alors, c'est un pastiche rabelaisien absolument de manière certaine, dans la mesure où la dédicace du roman se fait, il y a beaucoup de seuils, hein, advertissement au lecteur, suradvertissement, ad lectores en latin, AFR, à François Rabelais, Godichon, etc. Et ça se termine par de ton maître Pantagruel. Bon, c'est sûr que c'est une réécriture probablement des romans de Rabelais. Par ailleurs, dans le récit, les aventures en fait rappellent certaines aventures des personnages rabelaisiens. Donc il y a un phénomène d'intertextualité très fort. Il y a aussi un autre point commun avec Rabelais, c'est la dimension de la satire sociale. On trouve vraiment les topoïs de la satire de l'époque, la satire des gens de loi, la satire des religieux libertins, en particulier des moniales ici, la satire des canonistes, la satire aussi des querelles de rhétoriciens. Enfin bon, ce sont autant d'éléments qu'on a chez Rabelais. Toujours est-il que j'ai essayé de défendre dans ma thèse l'idée qu'il s'agissait de plus que ça, c'est-à-dire que Des Hôtels avait son propre programme romanesque et qui était différent de celui de Rabelais. Dans la continuité de celui de Rabelais, mais différent aussi. Et c'est je vais vous rendre compte, si vous voulez, d'un des aspects de ce programme propre qui va être la conduite du récit dans la mythe-histoire. Donc je vais me fonder sur l'idée que dans ce roman, il y a un empêchement d'histoire. L'histoire annoncée n'advient pas. Et cette stratégie d'empêchement, en fait, d'évitement de donner l'histoire attendue, se fait au profit de la représentation des tours et des détours de l'acte narratif. Alors, je vais présenter les choses en trois temps. Premier temps, comme je l'ai annoncé, une typologie des modes de conduite du récit au XVIe siècle, histoire quand même de vous donner un aperçu assez large, et peut-être que c'est ce qui vous intéressera le plus dans ma présentation. Ensuite, j'en viendrai pour les deux autres parties à la mythe-histoire, en insistant sur deux aspects différents. D'abord, l'assemblage de différents modes de conduite du récit dans ce roman, ce qui le rend assez déstabilisant. Et enfin, je terminerai en travaillant sur le suspens dans cette œuvre, le procédé du suspens et le traitement qui lui est réservé. Donc, premier point, typologie des modes de conduite du récit dans les romans du XVIe siècle. Alors, au XVIe siècle apparaissent les premières théories du suspens. C'est la première fois, en fait, que cette notion apparaît dans les traités. Pour l'essentiel, ce sont des traités, en fait, propres. Voilà, qui s'intitulent pas, évidemment pas, traité du suspens, c'est sûr, mais ce sont des poétiques qui font intervenir des réflexions sur l'épopée, parfois un petit peu sur le roman, en tout cas sur le récit en général, et qui vont présenter la notion de suspens. C'est-à-dire, je la définis, hein, c'est une notion qui est relative aux effets émotionnels suscités chez le lecteur par la conduite narrative, hein, c'est ça le suspens. Voilà. Donc c'est un effet psychologique, hein. Le suspens est lié à la psychologie du récepteur. Donc ça apparaît pour la première fois. Alors, pour la petite histoire, le mot de suspens en soi, le substantif suspens, n'apparaît pas encore au XVIe siècle en français. Il n'apparaîtra comme notion, d'ailleurs, de poétique littéraire qu'au XIXe siècle. En revanche, on trouve déjà la notion en latin, dans les premiers arts poétiques, donc en latin, au XVIe siècle, on va trouver, dans certains en particulier, l'un qui s'appelle l'Arte Poetica de Vida, publié en 1527 en Italie, on trouve l'expression suspensus pour désigner l'esprit du lecteur. Vous voyez, c'est pas le substantif, mais la théorie passe par ça, par la réflexion sur l'esprit du lecteur qui est suspendu à la conduite de la narration. Alors ça, on le trouve absolument partout. Donc ça intervient en latin, mais ça intervient aussi pour le roman en italien dans les années 1550. Sospeso, l'esprit est suspendu, toujours pour l'esprit, anima sospeso. Et puis on a également en français Jacques Amyot qui l'utilise, l'entendement du lecteur est suspendu à l'avancée de la trame. Voilà, donc alors pourquoi parler du suspens? On pourrait dire, bon, bah, c'est une anecdote, voilà, le suspens apparaît. Seulement, en fait, une très très belle étude de Terence Cave a montré en quoi le traitement du suspens par un romancier ou par un nouvelliste avait des enjeux herméneutiques. C'est-à-dire qu'il impliquait la compréhension de l'action. Si on fait attendre la fin de l'action d'une certaine manière, en fait, on engage la compréhension du sens de l'œuvre. Voilà, je vais essayer de vous récapituler ça en faisant, à ma manière, hein, pour le coup, sans garantie autre que mon repérage, une espèce de typologie des modes de conduite de l'intrigue et justement des enjeux herméneutiques de ces modes dans les romans du XVIe siècle que je connais. Alors, premier type de roman, ce sont les romans à intrigue linéaire. Alors, il y a toute une série de romans de ce type. Je pense que ce sont des romans que vous avez croisés ou au moins dont vous avez entendu parler. Je pense aux deux premiers romans de Rabelais, Pantagruel et Gargantua, qui sont des romans de formation, qui sont construits sur ce principe. C'est-à-dire que le début annonce une fin exemplaire. On arrive à comprendre, le lecteur arrive à comprendre qu'on va avoir l'enfance d'un prince jusqu'à le fait qu'il devienne un vrai prince, qu'il puisse prendre la succession de son père, qu'il soit un homme parfait, un homme formé. Donc, tout au long du récit, on va avoir des signaux qui vont projeter le lecteur vers la fin du récit. Il y a une mise en attente de la fin du récit, et finalement, ce récit se révèle exemplaire, parce qu'on sait que la fin va dévoiler l'accomplissement du destin du personnage. Il va accéder à un rang prestigieux, au plan social, politique, intellectuel, spirituel, éventuel. Voilà, donc dans les deux premiers romans de Rabelais, ça marche très bien. Puis ça marche aussi pour certains romans sentimentaux de l'époque, même s'il s'agit en fait d'ériger le personnage en contre-modèle. C'est-à-dire on montre des femmes, ce sont des histoires de femmes délaissées par des amants qu'elles ont eus hors mariage. Donc, chaque fois, la femme qui écrit son histoire, qui raconte son histoire, annonce qu'elle va être malheureuse. Donc, elle érige quand même son destin comme contre-exemplaire et elle fait attendre la fin. Voilà. Elle devient l'emblème d'une héroïne tragique. Hein. C'est ça. Ça se termine toujours très mal. En même temps, ce qu'a montré Terence Kev, donc dans cette thèse, enfin non, c'est pas une thèse, dans son étude un peu d'ensemble dont je vous parlais, son étude s'appelle Préhistoire, texte troublé au seuil de la modernité. Ça a été publié en 1999. Donc, ce que dit Terence Kev, c'est que même dans ce type de roman, on arrive à avoir une dimension sceptique. Lui, il parle de récit sceptique, c'est-à-dire que même dans les romans humanistes, on essaie finalement toujours de déjouer un peu l'attente du lecteur. On essaie de lui faire comprendre que la fin exemplaire qu'il a pu trouver dans beaucoup de romans médiévaux, par exemple, en tout cas dans des romans allégoriques, par exemple, médiévaux, cette fin ne va pas lui être donnée de manière aussi facile que cela. Alors, il y a des éléments, justement, d'ouverture de la fin de Pantagruel et d'ouverture de la fin de Gargantua qui prouvent cet aspect-là. Et puis, il y a aussi, si vous avez lu le tiers-livre ou le quart-livre de Rabelais, ce sont des romans qui, pour le coup, ne projettent pas vers la fin. On sait qu'on n'aura pas la réponse de Panurge, de savoir si Panurge doit ou pas se marier, en fait. Hein. Le récit délite complètement la quête du personnage. De même pour le quart-livre, hein, c'est un récit en archipel, on passe d'île en île, et finalement, on ne sait plus où vont les personnages. On sait qu'ils vont vers la dive bouteille, hein, l'oracle de la dive bouteille, mais on comprend au bout d'un moment, en fait, qu'ils ne le cherchent plus, cet oracle. Chaque moment, et chaque étape dans une île est l'occasion d'une rencontre avec des mœurs, on peut dire, exotiques. Voilà, donc, malgré cette intrigue linéaire, quand même des éléments sceptiques dans la narration. Deuxième type de roman, ce sont les romans à intrigues entrelacées. Je reprends cette notion d'entrelacement à la critique des spécialistes de romans médiévaux. Ils parlent d'entrelacement, donc, pour renvoyer à des romans d'aventure où où le récit, en fait, est organisé en épisodes de la quête chevaleresque. Voilà. Donc, chaque épisode donne lieu à des événements, et ensuite, on quitte le personnage, généralement à un moment un peu de tension pour lui, et on en vient à une autre histoire. Donc, en fait, ce sont des fils narratifs entremêlés. Donc, la critique a parlé d'entrelacement pour désigner ce type d'écriture. Alors, Terence Cave, pour ce type de suspens, parle de suspens ponctuels et épisodiques. Et il a eu vraiment, je trouve, la justesse de constater que cette faible cohérence de l'intrigue, qui ne pointe pas du tout vers l'issue des événements, vous voyez bien, hein, c'est le principe de la quête errante, hein, la quête du chevalier errant, c'est qu'il ne sait pas où il va, hein, il va vers l'inconnu. Donc, ce suspens ponctuel et épisodique renouvelle l'intérêt du lecteur d'épisode en épisode et ne l'oriente pas donc vers la fin du récit. Il y a une incertitude de sa part sur l'arrivée à la fin du récit. Et finalement, généralement, la clôture n'en est pas une. On quitte le personnage à un moment où il a réalisé une de ses plus grandes aventures ou un de ses projets, pourrait-on dire. Voilà. Donc là, il y a beaucoup de romans encore au XVIe siècle qui sont écrits de cette manière-là. Il y a les romans médiévaux qui sont publiés, déjà, sous forme, donc, qui sont édités, réédités ou édités pour la première fois ou réédités. Il y a la traduction de l'Orlando Furioso, qui est encore écrit sur ce principe. Il y a la traduction d'Amadis, dont j'ai parlé ce matin très rapidement, qui est un roman espagnol qui donne lieu à une saga en français. Il y a 20 livres au XVIe siècle. Voilà. Et puis, il y a encore un roman de Verville, Les Aventures de Floride, qui apparaît à la toute fin du XVIe siècle et qui est encore écrit sur ce principe-là. C'est pas un roman d'aventure chevaleresque, mais c'est un roman qui procède de la même manière. Parallèlement, il y a des théoriciens en Italie qui vont théoriser ce type de suspens. Et le mot sospeso dont je vous parlais, il apparaît pour ce type de roman. C'est Giraldi et Pigni, hein, qui sont ce sont les tout premiers romanciers du roman. Théoriciens du roman, ils écrivent deux traités du roman qu'ils intitulent Traité sur le roman. C'est la première fois qu'on trouve vraiment des traités correspondant à ça. Voilà, ça va donner lieu, si vous voulez, à terme, au roman feuilleton. C'est tout à fait le principe du roman feuilleton, hein. Il est un héritier du roman chevaleresque. Troisième, donc les derniers types de romans que je repère, c'est le roman à intrigue que je qualifierais d'imbriqué. Dans l'idée, si vous voulez, d'une construction artificielle du récit, clairement artificielle. Pour ce type de roman, Terence Cave parle pour sa part de suspens global et téléologique, c'est-à-dire orienté vers une fin. Dans ce type de roman, il y a un début absolument significatif qui met en réserve les événements de la suite, qui les fait attendre et qui fait attendre aussi la fin, hein, la révélation du sens du roman. On attend la fin de l'histoire et on attend aussi la révélation du sens du destin. Alors, ce qui est absolument fascinant dans cet artifice, c'est que non seulement on est projeté vers la suite, mais on est aussi projeté vers l'arrière. Parce qu'on commence les choses généralement in medias res, au milieu des événements, et on ne sait pas qui sont les personnages, pourquoi ils sont là. Donc on a besoin d'avoir un ou plusieurs récits rétrospectifs pour ensuite être reprojeté vers la suite des événements. C'est une construction qu'on va retrouver dans les romans héroïco-galants, en particulier du XVIIe siècle. Mais ça apparaît en fait dans les traductions des romans grecs. Les romans grecs, hein, de l'Antiquité tardive, Héliodore, Longus, sont traduits à cette époque-là. Et Jacques Amyot, qui est un helléniste dont vous avez peut-être entendu parler, eh bien, théorise justement dans la préface d'une des traductions, de sa traduction des Éthiopiques d'Héliodore, il théorise justement ce type de conduite narrative. Il dit « Toujours l'entendement demeure suspendu jusqu'à ce que l'on en vienne à la conclusion. » Suspendu, bon, c'est une manière de définir le suspens. Et c'est un suspens téléologique, il le dit clairement. Voilà. La critique anglo-saxonne va aussi théoriser cela assez tôt. Vers 1960, elle va adopter le terme de « serendipity » pour « Swift ». Swift, et c'est vraiment le même type, exactement le même type de notion qui est mobilisée ici. Hein, ce qui est décrit, c'est un hasard dominé par le romancier. Une rationalité très, très en lien avec ce que décrit Aristote. Aristote dit, il faut faire une œuvre que l'on conçoit globalement, que le début oriente vers la fin, qu'il y ait des liens de cause à effet ou d'effet à cause entre les événements du récit, etc. Voilà. Donc c'est vraiment un héritage aristotélicien et les romans grecs, en fait, appliquent ce principe aristotélicien pour la première fois. Alors, on a la traduction des Éthiopiques, mais on a aussi L'amant ressuscité de la mort d'amour, qui est un roman sentimental écrit, publié en 1557, dont l'attribution est donné à Denisot. Bon, mais c'est un roman anonyme. C'est très intéressant pour vous présenter un peu le récit. Vous comprendrez les choses très bien. On a affaire au personnage principal qui s'appelle l'amant. Il est malade. On le découvre au départ. Il est malade. Et donc toute l'histoire, ça va être de comprendre pourquoi il est malade et de résoudre sa maladie. C'est comme une enquête policière. Ça fonctionne comme ça. Donc, avec le narrateur, on va découvrir l'amant, l'écouter, et ensuite, on va faire une enquête médicale. Voir les symptômes, on regarde les symptômes de la maladie au début, ensuite, il va nous raconter son histoire, une histoire d'amour malheureuse, puis ensuite, le narrateur va intervenir pour dire, mais attendez, on va vous soigner. Et donc, il va essayer de convaincre la jeune fille d'aimer l'amant. Ce qui fait qu'à la fin, effectivement, ça se termine bien. Voilà. Il est ressuscité de la mort d'amour. Voilà. Donc c'est vraiment un roman à suspens téléologique. Et on va trouver un autre roman de Verville dont je parlais tout à l'heure, Le Voyage des Princes Fortunés, fin du XVIe siècle, qui fonctionne aussi sur ce même principe. Voilà, les avatars postérieurs de ce type de roman, donc ce sont les romans héroïco-galants du XVIIe siècle, c'est aussi le roman policier. Roman policier hein, qui est aussi... il fait un plus ou moins un équilibre entre le suspens épisodique et le suspens téléologique. Bon, pour conclure sur ce premier point, je dirais qu'il y a différents types de suspens à l'œuvre dans les romans du XVIe siècle. Ce que l'on peut dire, c'est que les modèles dont j'ai parlé sont pas tout à fait étanches. C'est-à-dire que le scepticisme, en gros, investit un petit peu tous les types de récits. Par exemple, dans Alector, j'en ai pas parlé, c'était un des romans que j'avais étudié aussi pour ma thèse, on a un suspens téléologique très clairement, mais quand même la fin, elle est ouverte. C'est-à-dire que Anno, il dit qu'il donnera la suite au prochain livre. Donc il est en train de revenir ici à des habitudes de narration chevaleresque, si vous voulez. Bon. J'en viens maintenant à la mythe-histoire. Et donc à ce roman dont je vous ai dit que la première édition qu'on a retrouvée date de 1572, mais dont on peut supposer en fait que la première date de 1559, probablement. Il y a deux bibliographes qui la mentionnent, aujourd'hui on n'en a pas d'exemplaire conservé, mais il est fort probable que ça date de cette époque-là. En tout cas, l'écriture date de 1550 à peu près. Bon, c'est important les dates, parce que on peut deviner ainsi les lectures qu'a fait des hôtels. Et comme vous allez voir que c'est un mélange de différents modèles, il faut quand même avoir ces notions en tête pour comprendre un peu le fonctionnement. Alors, donc j'en viens maintenant à la mythe-histoire en commençant par parler du baragouinage. Cette notion de baragouin qui est mise en titre de l'œuvre. Bon, évidemment, c'est un roman comique, hein, vous l'avez entendu par le titre. Je crois aussi que ce terme de baragouin, il renvoie aussi au mélange des genres. Les personnages... Fanfreluche, donc qui est le personnage de l'héroïne, elle appartient au peuple des Baragouins. Donc, le mot Baragouin a été introduit en français par Rabelais, donc un petit peu avant, pour désigner un langage incompréhensible. Des hôtels ont fait un substantif, les Baragouins, sans préciser leur langue. En fait, hein, on ne sait pas quelle langue ils parlent, ces Baragouins. Mais on comprend aussi qu'une fanfreluche baragouine, ça veut dire aussi que elle a à voir, cette héroïne, avec une écriture qui accumule les modèles. Hein. C'est le principe du baragouinage. Hein. On mélange plusieurs langages et à la fin, la compréhension en est difficile. Voilà. Donc c'est un roman qui réfléchit ouvertement à différents modèles narratifs existants. Quant au terme de mythe-histoire, qui est affiché dans le titre, c'est un néologisme en français, mais qui est pas en latin, si vous voulez. Le terme de mythe historia, il est déjà apparu chez Guillaume Budet. Alors, à un endroit, hein, donc, des hôtels est le deuxième. C'est pour dire quand même qu'il a beaucoup lu, hein, des hôtels. Donc, il a lu un texte de Budet, le De Philologia, qui, en 1527, utilise le terme mythe historia pour décrire, pour parler de romans de chevalerie. C'est assez singulier que des hôtels parlent que Budet parle des romans de chevalerie, mais il dit comme les mythes histoires de la table ronde. Il n'y a pas de doute, hein, c'est vraiment des romans de chevalerie. Voilà. Donc, ici, probablement que des hôtels utilisent ce terme de mythe histoire en songeant à Rabelais, qui a beaucoup travaillé sur la terminologie poétique. Il parle, lui, de mythologie pantagruélique. C'est un 152, hein, pour désigner le quart-livre et puis les romans qui précèdent. Donc, en tout cas, ce qu'il faut entendre dans mythe-histoire, c'est que c'est un récit fictif, hein, très clairement. On peut penser aussi à l'emploi antiphrastique par Rabelais de chronique ou histoire. Je fais une vraie histoire, et il faut entendre évidemment une histoire fausse, hein, de fiction. Et précisément, dans le poème qui vient après, que vous avez ici, vous voyez apparaître, c'est-à-dire le prologue, vous voyez, ça multiplie les seuils, hein, il y en a énormément. Donc, c'est le haut lecteur. Dans ce poème, en fait, Desautels va passer trois pages à énumérer tous les grands menteurs qu'il connaît. Donc, il commence par Ésope, qui est un grand, grand menteur dans ses fables. Il parle d'Homère, bien sûr. Il parle ensuite du livre de Morgan ou de Fierabras. On pense évidemment au roman de chevalerie. Et puis, il va terminer par le plus grand des menteurs, c'est-à-dire Lucien. Dans ses narrations, dans ses histoires vraies, hein, évidemment. Et mythe-histoire, je pense que c'est une réécriture du titre qu'a donné Lucien à son roman merveilleux, Les Histoires Vraies. Titre, déjà, en fait, qu'a plagié et adopté Rabelais, enfin, adapté Rabelais. Voilà, donc, la mythe-histoire, c'est un lieu pour tester des possibilités narratives explorées par les romanciers antérieurs. Mais aussi, pour explorer de nouvelles possibilités en mêlant ces possibilités. Alors, ce que je dirais ici, c'est que le titre nous donne un programme narratif, Mythe-histoire baragouine de Fanfreluche et Godichon. On va avoir également dans le faux titre, si commence l'histoire baragouine de Fanfreluche et Godichon, c'est-à-dire juste avant le début du récit. C'est une reprise du titre. Dans cette édition, il n'y est pas. Ah oui, bon, dans cette édition, il n'y a pas le sous-titre, mais dans celle de 1572, elle y est. S'y commence l'histoire. Et puis, on a aussi le proème qui dit que cette histoire parle de l'amour de laquelle, avec son ami Godichon, je veux parler. Donc, c'est bien une histoire d'amour entre Godichon et Fanfreluche. Le narrateur se désigne comme Songe-Creux. Il s'appelle Songe-Creux, donc c'est l'équivalent d'Alcofribas Nazier. Hein. Voilà, c'est Songe-Creux le narrateur. Voilà. C'est lui qui est censé parler dans le prologue. Voilà, il se prétend narrateur-auteur. Voilà. Alors, on va avoir 17 chapitres. Dans les 8 premiers chapitres, dont vous avez ici le titre du premier chapitre, comment Songe-Creux allait au moulin avec Fanfreluche et des propos tenus en chemin. Donc, dans les 8 premiers chapitres, on n'a pas le roman attendu. On a un récit de second niveau qui est donc intégré dans un dialogue, le dialogue entre Songe-Creux et Fanfreluche, Songe-Creux étant le serviteur de Fanfreluche. C'est Fanfreluche qui prend la parole pour raconter l'histoire de la rencontre de ses parents et sa propre enfance. Donc, vous voyez qu'on va avoir, en fait, un récit à dimension de lignée. Raconte l'histoire de sa famille, quelque chose de biographique, mais vraiment d'histoire familiale. Et puis, il y a l'autobiographie ensuite. Elle raconte même sa naissance. Ça, c'est drôle, vraiment, le moment où elle sort du ventre de sa mère. Voilà. Donc, il y a des modèles ici qui apparaissent. Hein. C'est Amadis. Amadis qui est d'abord, pour ses quatre premiers livres, un roman de lignée. Et puis, un roman, excusez-moi, cyclique, centré sur Amadis de Gaulle. Et puis ensuite, un roman de lignée, puisqu'on va avoir... La succession des descendants d'Amadis. Puis c'est aussi un roman sentimental, parce que c'est l'histoire d'amour de ses parents. Amour, évidemment, à la manière de Fanfreluche. Hein. Voilà. Parallèlement donc à cette histoire, on va avoir des informations secondaires qui vont être livrées au fil du dialogue, qui concernent le statut de Songe-Creux, qui est quand même le narrateur en première personne. On apprend qu'il a été serviteur de Fanfreluche, qu'il connaît Godichon, on n'en sait pas plus. Il dit dites-moi quelle est votre race. C'est ce qu'il dit à Fanfreluche. Racontez-moi votre race, car Godichon m'interroge dessus. Donc finalement, c'est Fanfreluche. Elle dit très bien, je vais vous raconter mon histoire. Ensuite, il explique qu'il est rentré au service de Fanfreluche à la toute fin du récit, donc du 8e chapitre. Il dit qu'il est rentré au service de Fanfreluche 10 ans après la mort du père de Fanfreluche et 1 an après celle de sa mère. Lecteur de comprendre et d'enregistrer les informations. On passe maintenant à la deuxième séquence du chapitre 9 au chapitre 16. On ne va plus avoir un roman de lignée, mais un roman d'éducation. Cette fois, c'est Songe-Creux qui parle en première personne et qui va raconter l'histoire de Godichou. En utilisant parfois le « je » et puis parfois le « nous ». Voilà. Cette fois, il y aura du dialogue, mais ça sera vraiment du dialogue de second plan. Donc, cette fois, on passe à un récit à dimension biographique. C'est surtout la troisième personne qui est utilisée ici, à la manière de Rabelais. Là, je pense que c'est vraiment le cycle rabelaisien qui est le modèle le plus prégnant. Songe-Creux raconte l'éducation de son maître, comment il est allé au collège de Bourgogne, comment il a reçu une lettre de son père l'incitant à travailler à Paris, ça doit vous dire des choses. Comment sur le chemin de peu d'études, il s'est accoquiné avec une bande de gueux. Puis comment il a rencontré des satyres. Il a visité les forges de Vulcain, il a grimpé sur le mont Fourchu, puis sur le mont Hélicon, où la muse Calliope lui a fait rencontrer les poètes antiques et contemporains. Finalement, il est arrivé à l'université de peu d'études, où il a assisté à une dispute entre des docteurs en droit. C'est le chapitre 16. Voilà. À nouveau, nous avons des informations secondaires qui nous sont données sur le statut de Songe-Creux. On s'aperçoit qu'il donne l'information du fait qu'il est entré au service de Godichon avant d'avoir été donné à Fanfreluche. Il a rencontré, en fait, par hasard, probablement, on ne sait pas trop, Godichon au pied du mont Fourchu. Ainsi, elle a nous de compagnie en l'université de peu d'études, en la base des Bauches. Et depuis, je l'ai toujours loyalement servi, jusqu'au temps qu'il me donna à Fanfreluche. Ça raccroche, si vous voulez, ça raccorde les deux récits. Enfin, nous avons le chapitre 17, le dernier. Donc, on va vers le chapitre 17, qui est très court. Très court, hein. Le roman, de toute façon, est assez court, hein. Il fait 100 pages. On va avoir un récit de premier niveau, comme pour le deuxième, qui va nous parler cette fois des deux personnages, enfin, Fanfreluche et Godichon, en première personne du singulier et du pluriel, dans la mesure où Songe-Creux va nous raconter comment Godichon a fait la connaissance, à peu d'études, de Fanfreluche, par hasard totalement. Elle passait dans la ville pour se rendre en fait dans la ville natale, dans le pays natal de son père. On ne sait pas pourquoi elle y va, mais bon, elle est là. Et donc, tout de suite, ils tombent amoureux. Et ils s'en vont ensemble dans le pays natal du père. Enfin, en tout cas, ils prennent la décision de s'en aller. Donc, ils vont en Rustrerie, pays d'origine de Trigori. Mais sur le chemin, ils s'arrêtent à Noli. Et on peut y voir certainement une anagramme pour Lyon. Il est arrêté, il est emprisonné, Godichon, car il porte une épée, nous dit le texte. On n'en sait pas plus. Mais finalement, quand même, il est libéré. Ils partent en Rustrerie, où il reste un an. Vous voyez que tout d'un coup, les choses s'accélèrent. Mais tout cela est dit en même pas une page. Hein. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez Noli qui apparaît là. Donc tout ce que je vous ai dit, ça correspond à même pas une page. Bon, en fait, il y a une accélération du récit dans ces dernières lignes avec un arrêt brutal. Tout simplement, on ne nous raconte pas les informations sur le couple. Parce qu'on attendait, en fait, hein, comment ils se sont connus, pourquoi ils ont décidé d'être ensemble, s'ils se sont mariés, et pourquoi ils sont allés en Rustrerie, on n'en sait rien. Voilà. Et évidemment, ce que va nous dire, on verra ensuite, mais vous allez voir évidemment ce que nous dit le narrateur là-dessus. Donc ce dernier type de récit mobilise les modèles de l'aventure et des sentiments, mais de manière évidemment très, très larvée, hein. Voilà. On a cette fois des informations secondaires sur le fait que Songe-Creux a été donné à Fanfreluche à peu d'études. Donc ce qu'on avait plus ou moins compris auparavant, là ça se concrétise. Conclusion là-dessus, on a dans ce récit plusieurs histoires. Dans ce roman, pardon, plusieurs histoires, plusieurs récits en fait. Hein. Plusieurs héros aussi. Il y a non seulement Fanfreluche et Godichon, mais il y a aussi les parents de Fanfreluche qui occupent 7 chapitres hein, sur les 17, c'est quand même pas mal, jusqu'à leur mort. Et puis on a aussi l'histoire du jeu, qui est quand même importante, qui est en arrière-plan, mais qui est présente. On n'a évidemment pas l'ordre attendu. On attendait tout simplement l'histoire des personnages jusqu'à à partir de leur rencontre et puis la suite, ce qu'on n'a pas du tout. On se demande même s'il y a une progression entre le début et la fin. Ça, c'est pas sûr. C'est pas sûr dans la mesure où on peut supposer que le moment où parle Fanfreluche et Songe-Creux finalement a pu se produire juste après la rencontre de Fanfreluche et Godichon. Donc si vous voulez, le début se situe chronologiquement peut-être juste après la fin. Mais c'est pas sûr. On sait pas. Donc, voilà. On ne sait pas si on a progressé entre le début et la fin. On ne sait pas si on est en rustrerie. Ils sont en train de se promener en âne pour aller vers un moulin. Mais on ne sait pas où ils sont. Donc, voilà. C'est une vraie question. Voilà. Donc, en fait, en gros, ce récit, c'est deux longues analepses. Vous l'avez entendu, hein, analepse qui dépasse même l'histoire de l'héroïne, puisqu'on remonte à l'histoire de ses parents, et puis l'histoire de l'éducation du héros. Donc, troisième et dernier point, on va travailler sur la question du suspens. Dans cette histoire, la progression des amours de Fanfreluche et Godichon, puisque c'est comme ça que c'est annoncé dans le titre incipit, ou bien progression vers l'inconnu. Le lecteur, vous l'avez vu, est très sollicité dans le paratexte. Paratexte liminaire, mais aussi le paratexte final, par un épilogue, mais je ne puis, gracieux lecteur, vous écrire ce demeurant, pour ce que, quelque empêchement, etc. Il dit qu'il est jeune, il doit écailler sa jeunesse, il a plus envie d'écrire la fin. Songe creux à son galonneur, la salutisphère, fièvre, cartaine. Le galonneur, ici, en fait, étant une image pour désigner le lecteur, et puis un poème, à nouveau, au petit galonneur. Voilà, donc c'est sûr, c'est évident que le lecteur est très très sollicité dans ce dispositif. C'est clairement un récit sceptique, c'est-à-dire c'est un récit qui parasite la conduite de la narration vers son dénouement. Alors pourquoi ? D'abord parce qu'il y a une programmation de la confiscation de la fin. On comprend au cours du récit qu'on n'aura pas la fin attendue, que les fameuses amours de Fanfreluche et Godichon, il va falloir faire une croix dessus. En gros. Mais malgré tout, et c'est là, je crois, quand même l'audace de ce roman, il y a quand même un maintien du suspens. C'est-à-dire qu'on croit quand même. On croit un peu, mais on se dit que c'est pas sûr qu'on ait les choses. En effet, il y a des procédés dilatoires, c'est-à-dire qui cherchent à nous faire attendre la suite, à aiguiser notre attention. Ben, précisément, ce qui aiguise notre attention, ce sont les digressions continuelles. Parce que, non pas la digression devrait, au contraire, émousser notre envie de connaître la suite, mais le fait que chaque fin de digression donne lieu à un rappel du projet. Et ça, c'est absolument partout. Ah oui, mais j'ai prévu de parler des aventures, des amours de Fanfreluche et Godichon, donc j'arrête là ma digression et j'y reviens. Là, je vous ai donné une série de citations qui prouvent cet aspect-là. Par exemple, c'est Songe-Creux qui se plaint à Fanfreluche de la longueur de son récit. Or, poursuivez le reste de vos nouvelles. Je suis après, dit-elle, que vous êtes chaud pour abreuver. Vous ne savez attendre qu'une rave soit cuite. Elle fait ici un jeu parce qu'elle a expliqué pourquoi les baragouines aimaient l'alcool. Et donc là, elle lui dit précisément qu'il devrait aller boire un coup, hein, tout simplement. Voilà, attendre qu'une rave soit cuite. Donc là, c'est évidemment un métadiscours, hein, pour désigner l'attente du lecteur. De même, après, toujours dans leur dialogue, « Mais je vous ai rompu votre propos. Je crois que vous étiez au point que monsieur l'official approuvait le mariage de ses parents. » Donc, chaque fois, il est dit que les digressions sont longues et qu'elles font attendre. Enfin, les digressions ou les analepses, ça dépend, font vraiment attendre la suite du récit. Voilà. Et puis, surtout, on a cette très très longue mention de la part du narrateur qui, en fait, s'excuse à la fin du récit de Fanfreluche du fait qu'il n'a pas donné le récit attendu au lecteur. J'en ai extrait une partie, mais en fait, il y en a deux pages. « J'ai grande peur que quelques gens chatouilleux des oreilles viennent ici crier après moi sur ce qu'en vous faisant le compte de cette très véritable histoire, j'ai à leur avis trop demeuré sur le propos tenu à moi par Madame Fanfreluche, que selon ce que j'ai dit auparavant de mon intention, que mon intention soit d'écrire l'amour d'Iseldame, ma maîtresse avec son ami Godichon. Et pour ce, voudrait-il dire, je ne devais tant des choses prémettre. Ince, au premier chapitre entrer en la matière. Maintenant, faut encore, dussiez-vous pisse et vinaigre, devant que entrer en matière, vous faire savoir de l'état de monsieur mon bon maître, le capitaine Godichon. » En fait, il va renouveler le procédé. Il a fait une analepse, il va en faire une deuxième sur l'histoire de Godichon. Mais il s'excuse quand même longuement, pendant une page, il va s'excuser du fait qu'il a fait cette longue analepse au sujet de Fanfreluche. Voilà, il va le justifier, c'est ce que j'ai coupé, il justifie par le fait qu'on ne connaît pas Fanfreluche, effectivement. C'est un personnage nouveau par rapport à tous les personnages qui circulent, dans le roman de chevalerie, etc. Donc, il dit, vous la connaissiez pas, donc il fallait bien que je vous en parle. c'est évidemment un pied de nez fait au lecteur ici. Mais par rapport, enfin, parallèlement à l'existence de ces procédés dilatoires et à leurs commentaires par le narrateur, on a aussi une projection vague vers la suite du récit. Et c'est là, si vous voulez, où il y a la dimension du scepticisme. C'est-à-dire où on émousse quand même la curiosité du lecteur, ou en tout cas, on lui enlève un objet. Je vais m'expliquer un petit peu. Au début du récit, Songe-Creux dit qu'il va raconter les amours, mais qu'il doit d'abord présenter qui est Fanfreluche, et il dit « Et le mieux, c'est que je me taise et que je la laisse parler. » C'est ce qu'elle m'a dit un jour quand on se promenait en âne pour aller faire moudre du blé au moulin. En fait, c'est une aventure, c'est cette promenade, mais c'est quelque chose qui n'est pas trépidant. Donc, on a envie de connaître la suite, mais en même temps, ça aiguise pas beaucoup notre curiosité. Vous voyez, les procédés dilatoires, pratiquement, aiguisent plus notre curiosité, les digressions, que ça. Voilà. Les digressions elles-mêmes sont parfois peu captivantes. La symbolique des habits des hommes de droit, il y en a 5 pages, et c'est clairement pas passionnant. Et le but, c'est déguiser nos nerfs, hein. C'est sûr, bien sûr. Voilà. Et on a aussi 2 pages, c'est le calepin, c'est le terme qui est utilisé, le calepin d'injures lancé par Biétrix à Trigory dans leurs premières années de mariage. Donc elle lui lance des injures à la figure, puis elle finit par être battue, donc elle arrête. Mais pendant deux pages, c'est un peu long, et évidemment, c'est une volonté de nous faire comprendre que on peut attendre, enfin on est très soumis au bon vouloir du narrateur. À la fin, à la toute fin, évidemment, la grande stratégie du narrateur, c'est de dire qu'il ne donnera pas la fin. Ne vous contentez-vous pas, que maudits soient les canailles, encore fais-je plus d'honneur qu'il ne vous appartient à les au diable. Bon, c'est un envoi qui est rablaisien. C'est un envoi qui est rablaisien, bien sûr. Voilà. Il le donne dans l'épilogue, mais il le donne aussi, en fait, à la fin du récit. Quand il nous dit, bon ben voilà, ils ont passé, regardez. Là, je vous ai donné la citation en entier. Là, nous demeurâmes environ 1 an, où Godichon et ma maîtresse firent de beaux petits tourdillonnais, lesquels je réserve au second livre. Ils viennent de se connaître. On nous dit qu'ils vont passer 1 an ensemble, c'est résumé. Hein. On a un sommaire. Et puis ensuite, ils ont fait des tourdillonnais, donc c'est une métaphore, on ne sait pas à quoi elle renvoie. Et voilà, second livre. Et donc, il va nous dire ensuite, dans l'épilogue, qu'il en a prévu 14. Là, il a écrit le premier, mais qu'il en a écrit 14, et puis ensuite, au galonneur, il va dire que c'est le galonneur qui lui en a commandé 15 en tout. Donc, il a donné le premier, mais bien sûr, les autres vont arriver. D'abord, il va boire un coup, et puis il reviendra pour donner les suivants. Voilà, donc, évidemment, c'est une histoire qui construit la déception du lecteur, hein, et qui l'annonce, cette déception. Alors, je terminerai par un deuxième autre élément qui va dans ce sens d'une progression vers l'inconnu. C'est que la progression est complètement inattendue. Et ça, du point de vue justement herméneutique, ça pose vraiment problème. C'est déjà ce sur quoi travaillent le tiers livre et le quart livre de Rabelais, hein. Et c'est pour ça que ce sont des récits très déstabilisants. Mais là, ça va plus loin. Pourquoi ? Parce que, en fait, l'organisation des événements n'est pas causale, oui, ça c'est ce que veut Aristote, hein. Il faut que chaque élément suive l'autre de manière serrée, étroite. Ici, en fait, les événements sont tout simplement chronologiques. Et finalement, ben, ils ont tendance à se rapprocher un peu trop de la vie quotidienne, si vous voulez. Donc la question du sens, elle est vraiment posée de façon saillante. On a une succession qui est liée à la contingence. Je vous en donne un seul exemple. Quand Godichon et Fanfreluche se rencontrent, c'est par hasard. Il n'y a aucune motivation d'ordre supérieur qui crée leur rencontre. Tout simplement, Fanfreluche passe dans la ville au moment où Godichon fait ses études. Comme il travaille pas beaucoup, il la rencontre. Voilà, c'est tout. Chapitre 17. Les épisodes sont juxtaposés, tout simplement. Des épisodes, soit réalistes, entre guillemets, et des épisodes merveilleux. On est très surpris de cette aventure, du passage dans les forges de Vulcain, et puis ensuite au mont Hélicon. C'est un très très grand chapitre merveilleux, et tout le reste est extrêmement réaliste. C'est très décalé, mais c'est tout à fait un signe, je pense. On passe de façon aléatoire d'un type d'événement à un autre. Voilà. Il y, y a quand même la rencontre des cyclopes, des muses, enfin, c'est un vrai épisode merveilleux. Et deuxième chose, plus inquiétant encore, et ça, ce que Rabelais ne fait pas du tout, c'est le choix d'événements gratuits. On les raconte, en fait, sans but, sans projet. Alors, c'est-à-dire que ces événements sont sélectionnés en fait, façon aléatoire, voilà. Ils sont tributaires de l'expérience personnelle de son creux. Par exemple, on a la vie de Fanfreluche parce qu'elle lui a raconté un jour à son creux sa vie. Sans ça, on l'aurait pas. Et on l'a parce qu'elle a envie de pisser. Ça commence comme ça. Elle veut s'arrêter sur le chemin et du coup, elle lui raconte sa vie à ce moment-là. Si elle n'avait pas eu envie de pisser, ben, on n'avait pas le roman, on n'avait pas la moitié du roman. Donc c'est quand même vertigineux pour le lecteur, c'est très déstabilisant, en fait. Voilà. Autre exemple, l'épisode, qui est quand même un épisode très attendu, cet épisode de formation au Mont Hélicon du personnage, là aussi, finalement, on apprend à la fin de l'épisode la raison pour laquelle on l'a. Tout simplement parce que Songe-Creux et son maître, Godichon, se sont rencontrés à ce moment-là. S'ils ne s'étaient pas rencontrés, ben, on ne l'aurait pas eu. Il y a quelque chose de très inquiétant, si vous voulez, dans cet aléatoire. Voilà. Et puis aussi, il y a la question de la mémoire de Songe-Creux. De temps en temps, il dit qu'il se souvient, puis de temps en temps, il dit qu'il ne se souvient pas. Donc sa mémoire est sélective et on se dit ben, que la construction du sens pose vraiment problème. C'est complètement différent des romans qui sont fondés sur un projet d'édification, où on va choisir des événements significatifs pour construire un destin au personnage. Là, le destin, il n'est pas construit, précisément. Il n'y est pas. Du coup, je me pose la question du rapport entre ce type de roman et le roman picaresque. Le roman picaresque naît exactement à la même époque en Espagne. Lazarillo de Tormes, c'est 1554. Et c'est traduit en français un tout petit peu après. Là, j'ai plus la date en tête. Je crois que c'est 1560 la première traduction en français. Je sais pas si des hôtels l'a lu. C'est pas sûr, mais toujours est-il quand même qu'il y a des points communs. Les personnages sont pratiquement des picaros, pratiquement. C'est-à-dire qu'ils évoluent, bon, ils appartiennent au bas peuple, Godichon qui s'acoquine avec des gueux, etc. Ce sont des anti-héros, hein, clairement. Mais en même temps, donc ils ont un parcours sans but, eux aussi, n'est pas orienté vers une destinée exemplaire, mais en même temps, c'est pas tout à fait, l'un des deux probablement est quand même de descendance royale, même s'il a déchu, si vous voulez, de son statut originel. Donc bon, en tout cas, il y a quand même des liens avec ce type d'écriture. Voilà. Donc on pourrait dire que ce roman parodie les récits exemplaires et leur construction, hein. Mais je crois qu'il parodie aussi le procédé du suspens en lui-même. Il réfléchit vraiment à ça et il parodie le procédé. C'est à ce titre que je me pose la question de savoir, et c'est grâce à votre journée que je me pose cette question, j'en suis contente, si c'est pas le premier anti-roman de l'histoire littéraire. Bon, évidemment, ce type de roman-là fait penser à Jacques le Fataliste, hein, vous l'avez entendu, je pense, depuis le début. Oui, est-ce que la mythe histoire a été lue par Diderot? Peut-être. Je crois que c'est une vraie question, hein, qu'on peut se poser. C'est pas impossible. Il y a eu 5 éditions au XVIe siècle. Minimum, on a trouvé 5, mais il y en a au moins 2 autres. Donc, on peut se poser la question. En tout cas, c'est un anti-roman qui va plus loin que Don Quichotte ou Le Berger extravagant. Parce qu'il ne s'agit pas ici seulement de montrer, il ne s'agit même pas du tout, de montrer un héros rendu fou par ses lectures. Il s'agit de raconter une autre histoire que celle que le titre fait attendre. Vraiment, c'est vraiment le projet. C'est un anti-roman parce qu'on a une approche distanciée des intrigues en tout genre, expérimentée jusque-là, et qu'il n'y a pas d'avancée narrative.